Vivre FM
podcast. 11h midi sur Vivre FM,
la vie des entreprises.
Anne-Lise Farcoa.
Les ESAT et les EA accueillent les publics les plus éloignés de l'emploi et proposent des dispositifs innovants, mais encore rares, comme les ESAT hors les murs. Alors l'orientation en ESAT décidée par la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées, vaut reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés. Quelles sont les conditions pour une personne d'intégrer un ESAT? Quelles sont les activités de ces établissements? Quels sont les avantages pour une entreprise ordinaire de s'adresser à un ESAT? Quelle est l'image que le grand public a des ESAT et comment valoriser le travail des personnes handicapées? Autant de sujets que nous abordons depuis un an et demi dans une série d'émissions de la vie des entreprises que nous avons appelées ESAT EA C'est la vie et qui sont préparées en collaboration avec la société Manpower. Et pour ce nouveau rendez-vous mensuel, nous allons parler du Salon de l'Excellence en ESAT EA qui s'est déroulé au Parc des Expositions de Bordeaux les 25 et 26 mai. En parallèle des Abilimpics, le championnat du monde des métiers des personnes handicapées. Tristana Canaple, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de projet solutions ESAT EA et Céline Dassy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vous-même responsable des filières métiers au réseau GESAT et nous aurons dans la suite de l'émission Thierry Dimbourg du Créaï Aquitaine et Carole Palas, directrice de l'ESAT Pessac Alouette. Merci à vous qui nous écoutez. Très belle matinée à tous.
La vie des entreprises
jusqu'à midi sur Vivre FM.
Bonjour à tous et bienvenue dans la vie des entreprises. Nous sommes ensemble, vous le savez, jusqu'à midi dans un nouveau numéro de la vie des entreprises spécial ESAT EA en compagnie de Tristana Canaple, chef de projet solutions ESAT EA et Céline Dassy, responsable des filières métiers au réseau GESAT. Et nous aurons dans la suite de l'émission Thierry Dimbourg du Créaï Aquitaine et Carole Palas, directrice de l'ESAT Pessac Alouette. Alors on va parler tout au long de l'émission du Salon de l'Excellence en ESAT et EA qui s'est déroulé au Parc des Expositions de Bordeaux les 25 et 26 mars dernier. Mais avant cela, première question, ou plutôt un rappel, qu'est-ce qu'un ESAT? Qu'est-ce qu'une entreprise adaptée? Quelle est la différence entre les deux? Je ne sais pas, Céline, Tristana, Céline?
Oui, je peux peut-être commencer. Alors, un ESAT, donc établissement et service d'aide par le travail, en fait, c'est une structure qui va accueillir des personnes en situation de handicap qui n'ont pas une capacité de travail suffisante pour travailler dans une entreprise qu'on pourrait nommer de classique. Donc, dans un ESAT, vous avez en fait une équipe médico-sociale qui va accompagner la personne en situation de handicap, lui proposer des activités de soutien, de maintien des connaissances. Et l'ESAT, c'est également en fait une petite PME finalement qui va avoir une activité économique, qui va proposer des activités à valeur ajoutée économique aux personnes en situation de handicap dans le cadre de leur projet professionnel pour pouvoir répondre à des demandes de clients souvent localement.
Mais quel est le profil des personnes qui travaillent dans les ESAT? Est-ce qu'il y a un profil type ou est-ce que c'est tout type de handicap peut être accueilli dans un ESAT?
Ce sont tout type de handicap. Vous allez trouver du handicap moteur, psychique, déficience intellectuelle. Certaines associations qui gèrent des ESAT vont être plus spécialisées dans certains types de handicap. Je pense notamment à l'APF ou à l'UNAPI. Mais après, voilà, ce sont en fonction vraiment des métiers et des handicap des personnes qui leur permettent après derrière de pouvoir avoir accès à certains types de métiers.
Alors ça concerne combien de personnes en France actuellement qui travaillent dans des ESAT?
Alors les ESAT uniquement, on est sur environ 120 000 personnes en situation de handicap qui sont accueillies dans environ 1400 ESAT.
Alors concernant les entreprises adaptées, les EA, il y a une petite différence.
Oui,
par rapport aux ESAT.
Tout à fait. Donc ce sont également des structures qui vont accueillir des personnes handicapées. Maintenant, il faut savoir qu'une EA, une entreprise adaptée, est une entreprise qu'on peut qualifier de classique, finalement, au niveau de son statut. La différence majeure avec les autres entreprises, c'est qu'elle doit employer un minimum 80% de personnes en situation de handicap dans son personnel de production. Et également, ces personnes vont avoir accès à un suivi et à, pourquoi pas, peut-être une insertion derrière vers le milieu ordinaire de travail.
Il y a un peu moins de soutien médico-social ou médico-psychologique?
Alors, on va pas qualifier ça vraiment de soutien médico-social, ça c'est plutôt dans les ESAT.
Oui.
Dans les entreprises adaptées, on va plutôt parler de d'aide à l'insertion. Par exemple, vous allez avoir un ou une chargée d'insertion qui va assurer cette fonction de suivi du projet professionnel de la personne.
Ça peut être un petit peu compliqué pour les directeurs d'accueillir des personnes qui sont en situation de handicap, qui quelquefois ont été éloignées de l'emploi pendant un certain temps. Il faut se réadapter aux horaires, il faut se réadapter peut-être aussi au travail avec des collègues. Donc tout ça, c'est vraiment pris en compte de la part des directeurs.
Tout à fait.
Et de l'ensemble des encadrants d'ailleurs.
Tout à fait, c'est vraiment le rôle de l'ESAT, hein, que ce soit l'ESAT ou l'entreprise adaptée, d'avoir ce rôle d'adapter les conditions de travail, de faire en sorte que, certes, il y a une activité professionnelle à valeur économique, mais ça se fait dans un cadre vraiment aménagé au niveau des conditions de travail. Et ça, c'est vraiment le travail des éducateurs techniques spécialisés ou des moniteurs d'atelier qui vont avoir ce rôle vraiment de rendre les conditions de travail totalement adaptées au handicap des personnes.
Alors, si on parle du GESAT, quel est le rôle, quels sont les missions du GESAT, peut-être Tristana ?
Oui, alors le réseau GESAT, c'est avant tout le facilitateur des relations économiques entre les ESAT et les EA et les entreprises du secteur classique. Voilà. Et donc pour ce faire, ils mettent à disposition de leurs partenaires et de leurs adhérents un certain nombre d'outils pour faciliter leurs relations et qu'ils puissent travailler ensemble.
C'est-à-dire que c'est aussi valoriser le travail des personnes qui travaillent dans les entreprises adaptées et dans les ESAT, parce que c'est vrai que encore, malheureusement, beaucoup d'entreprises ordinaires ont une image un petit peu pas très, très, très bonne de ces entreprises-là.
C'est vrai, l'objectif, c'est aussi de changer effectivement le regard sur le handicap. Il y a encore beaucoup de préjugés de la part des entreprises classiques. Et là, on dépasse ces préjugés pour effectivement valoriser les compétences des travailleurs en situation de handicap dans les ESAT et les EA.
Pourtant, c'est vrai que ce secteur a fait énormément d'efforts depuis quelques années, innove, parce que c'est vrai que traditionnellement, hein, les prestations qui étaient proposées, c'était de l'emballage, de l'entretien d'espaces verts et tout ça. Et maintenant, on voit vraiment émerger des nouvelles structures qui proposent des prestations auxquelles on n'aurait pas pensé.
Effectivement.
Donc il faut absolument que les entreprises ordinaires soient informées de tout ça. Et donc, ça, c'est vraiment le rôle du GESAT.
Du GESAT, oui.
Alors, est-ce que vous avez des idées, d'ailleurs, des prestations un petit peu innovantes dont vous pourriez nous parler, là ?
Alors, moi, je vais pouvoir vous parler de la marque Sogou, le goût
oui,
solidaire.
Bien sûr.
Qui est une marque portée par le réseau GESAT, pardon, pour valoriser toutes les productions agroalimentaires qui sont issues des établissements et services d'aide par le travail et des entreprises adaptées. Voilà, il y a vraiment des structures qui sont en elles-mêmes des exploitations agricoles et donc qui font un certain nombre de produits. Ça peut être des boissons, ça peut être du chocolat, des terrines, etc. Voilà, une gamme variée de produits et c'est vrai que souvent on n'y pense pas vraiment, mais il y a aussi.
Et on retrouve ces produits dans la grande distribution ?
Alors, pour l'instant, c'est encore en cours
Ou parce que c'est tout nouveau cette
voilà,
marque.
Voilà,
hein.
C'est ça, la marque. A été créée, on va dire, elle existe et on est en train justement de la développer et de se rapprocher de la grande distribution notamment pour pouvoir effectivement valoriser encore les produits et qu'ils soient accessibles au plus grand nombre.
Parce que si on veut se procurer un produit qui a été fabriqué par un ESAT, effectivement, vous le dites, une terrine, je crois qu'il y a des tisanes aussi qui sont fabriquées
oui.
dans un ESAT très sympa qu'on avait reçu ici. Comment on fait ? On va directement sur... Est-ce qu'on peut trouver ça sur le site du GESAT ?
Alors, pour l'instant, il y a un site internet, Sogou.
Sogou, d'accord.
Voilà, qui est en cours aussi de développement, mais vous pouvez tout à fait envoyer un mail sur l'adresse contact. Et ensuite, moi, derrière, je vous renverrai vers les établissements en fonction du type de produit que vous souhaitez. Et il est possible de commander donc directement auprès des établissements, en fait, pour l'instant.
Ouais. Et c'est écrit sur... Il y a une étiquette sur laquelle c'est écrit que ces produits sont fabriqués dans des établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap ?
Oui. En général, c'est écrit sur les étiquettes des produits. Alors, on met en avant aussi, évidemment, la qualité des produits,
oui.
Bien sûr, qui prime. Mais c'est aussi un facteur différenciant, voilà, de montrer que le produit est issu d'un ESAT ou d'une EA. Et donc, ce sont des personnes en situation de handicap qui ont participé à son élaboration.
Alors, il reste quand même... c'était sûrement des idées fausses, et vous allez me le dire, que les produits qui sont... Les prestations qui sont proposées, les produits qui sont fabriqués dans les ESAT et les EA sont quelquefois plus chers que dans des entreprises ordinaires. J'espère que vous allez me dire « mais non, Anne-Lise, vous vous trompez complètement ».
Non, pas forcément, effectivement. Ça dépend des produits... Il n'y a pas de règles.
D'accord. Donc, il ne faut pas hésiter à se procurer ce genre de produits, justement à cause de ce genre de choses. Alors, on va parler du Salon de l'Excellence qui s'est déroulé les 25 et 26 mars dernier à Bordeaux. C'était le premier salon, hein ?
Oui, alors, c'était effectivement le premier salon de ce type qui avait lieu sur Bordeaux.
Oui.
Il faut savoir que ce salon, en fait, était intégré à une manifestation plus large.
Les Abilympics.
Les Abilympics. Donc, les Abilympics, en fait, c'est une compétition, ce sont les championnats du monde des métiers des personnes handicapées. C'est en fait l'équivalent des Olympiades des métiers, un petit peu comme vous avez les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, vous avez les Olympiades des métiers et les Abilympics.
Et donc ça a lieu tous les 4 ans ?
Donc ça a lieu tous les 4 ans.
C'était la première fois en France ?
Et c'était pour la première fois organisée en France, effectivement. Avec évidemment une envergure internationale, puisque vous aviez une trentaine de délégations de pays différents et plus de 500 candidats qui concouraient dans des métiers extrêmement variés. Hein. On va retrouver...
Essentiellement des métiers de l'artisanat.
Des métiers d'artisanat, hein, un petit peu comme la pâtisserie, les compositions florales, la coiffure, le crochet par exemple. Et puis également des métiers avec une certaine technicité, la soudure, l'assemblage, le montage d'ordinateurs par exemple, la création graphique.
C'est très varié.
Vous aviez à peu près une cinquantaine de métiers différents qui étaient représentés sur cette compétition.
Et la France a envoyé combien d'équipes ?
Alors,
combien de personnes ? Je ne sais pas si c'était un travail en équipe ou un travail personnel.
Il y avait effectivement, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais il y avait quelques dizaines de compétiteurs pour l'équipe de France. Et d'ailleurs, la France a remporté 25 médailles au total. Donc, est arrivée, me semble-t-il, quatrième sur l'ensemble des pays qui étaient représentés, ce qui n'est vraiment
pas si mal.
Ce qui
est quand
même
vachement bien.
Voilà.
Et effectivement, ce sont les Asiatiques qui sont très forts dans ce domaine.
Oui, effectivement, ils ont eu aussi beaucoup de médailles.
Alors, c'est très, très bien. On va en parler dans la suite de l'émission, puisqu'on va avoir par téléphone Carole Palas, directrice de l'ESAT Pessac-Alouette, juste après une pause en musique.
La vie des entreprises.
Jusqu'à midi sur Vivre FM.
Alice Farcoa.
De retour dans la vie des entreprises. Dans quelques minutes, vous retrouverez votre espace coaching, les 3 minutes pour l'emploi. Mais pour l'instant, nous sommes toujours dans la vie des entreprises. Notre émission mensuelle ESAT EA, c'est la vie. Une série d'émissions de la vie des entreprises consacrée au travail du secteur adapté et protégé. Et nous sommes toujours en compagnie de Tristana Canap, le chef de projet solution ESAT EA. Vous êtes détendue, ça y est, Tristana ?
Ça y est.
Et Céline Dassy, responsable des filières métiers au réseau GESAT. Et nous avons tout de suite par téléphone Carole Palas, directrice de l'ESAT Pessac-Alouette. Madame Palas, vous êtes avec nous ?
Oui, bien sûr.
Bonjour, merci de nous avoir rejoint ce matin. Alors, où est située votre ESAT ?
Alors, nous sommes situés en Gironde. Nous faisons partie de l'association LADAPI de la Gironde.
Oui.
Donc, avec 45 établissements et services, dont l'ESAT Pessac-Alouette, situé sur Pessac.
Il fait beau ce matin chez vous ?
Moyen.
Oh.
Moyen. on accueille 135 personnes handicapées, des différents types de handicap.
Il n'y a pas de profil type, hein, c'est ça ?
Non, handicap psychique, hein, trouble du spectre autistique et on va dire carence sociale.
Alors, quelles sont les prestations que vous proposez ?
Alors les prestations en termes d'activité, nous proposons comme beaucoup d'ESAT donc une activité d'espace vert,
oui.
Entretien et création, un gros pôle espace vert, une activité de sous-traitance industrielle, une activité de routage reprographie, propreté industrielle et une activité restauration depuis bientôt un an que nous avons ouvert en fabrication propre avec livraison de plateaux repas aux entreprises que nous avons lancé très récemment lors du salon qui s'est trouvé sur Bordeaux, le salon Abilympics qui sont les Olympiades des métiers pour lesquelles on a candidaté sur une activité, notamment les espaces verts, puisque nous étions présents à la fois pour lancer notre activité plateau repas, mais aussi pour concourir dans la catégorie jardinier paysagiste. Nous avons engagé deux candidats, en fait, dans le secteur. Et donc, ils ont obtenu la médaille d'argent. Puisqu'ils
oh,
ont
bah félicitations.
Donc, voilà, donc c'est une belle réussite.
Alors, comment vous les avez préparés, justement, ces candidats?
Comment on les a préparés? Bah, ça a été une préparation de plusieurs mois. On a déjà été retenu comme centre d'excellence, hein, pour la formation, pour l'accompagnement à la formation, puisque nous avons un organisme de formation BM à la DAPI. Donc à partir du plateau technique que nous avons mis en place sur les APC à Kelouette, nous avons pu dispenser et préparer l'épreuve. Hein, dispenser la formation nécessaire pour pouvoir mener à bien l'intégralité de l'épreuve.
Qu'est-ce que ça apporte aux candidats d'avoir eu ces récompenses? Parce que médaille d'argent, c'est quand même une belle récompense.
Oui, bah c'est
ça les valorise dans leur travail.
C'est une belle valorisation. Je crois que c'est un peu finalement un aboutissement de la reconnaissance du travail qu'ils savent faire, puisqu'ils ont un long parcours pour certains en ESAT avec une formation, un étayage technique important, bien souvent avec une validation et des acquis d'expérience, notamment pour un candidat qui a passé sa VAE dernièrement, juste avant de s'engager dans les Abilimpiques. Donc voilà, avec des perspectives du coup, avec tous ces bagages d'insertion professionnelle. Et donc là, ben, le salon est arrivé à point nommé pour eux, puisque du coup, ça permet voilà, de mettre en avant, de mettre à l'honneur finalement que ça conforte leurs compétences. Donc c'est une belle réussite pour leur projet à venir, et ça vient encore appuyer le CV pour une insertion au milieu ordinaire.
Alors, il y avait combien de personnes qui concouraient dans ce domaine-là?
Alors, il y avait trois pays, puisque en fait, il y avait la France.
Oui.
Donc, une équipe en France, donc nous. Il y avait une équipe, une délégation espagnole qui a présenté deux équipes.
Oui.
Et une délégation australienne.
Ah, d'accord. Donc, et qui a gagné, du coup?
Et c'est l'Australie.
C'est l'Australie qui a gagné. Donc, nous, on est arrivés deuxième. C'est quand même super bien. Et vous étiez donc aussi présent sur le stand de la DPI 33. C'était dans quels objectifs? Il nous reste quelques secondes.
Pour présenter un petit peu tout ce qu'on peut faire à la DPI, tout ce que l'on propose, effectivement, en termes de parcours, valoriser tout ce qui est mis en place en termes de plateforme métier, de professionnalisation et d'insertion. Parler du job coaching aussi par rapport à l'autisme, mais c'était aussi pour nous l'occasion, la rencontre du secteur économique avec des entreprises pour pouvoir lancer sur la région nos plateaux repas, puisque nous avons développé avec le GESAT des plateaux repas à destination des entreprises que l'on va livrer tous les jours.
Voilà, merci.
Donc, nous avons présenté.
Merci beaucoup, Madame Palace, d'avoir été avec nous ce matin pour nous expliquer tout ça. Et encore félicitations aux candidats. Alors, on fait un petit détour vers les 3 minutes pour l'emploi. Notre coach répond aux questions des auditeurs sur l'emploi. À tout de suite. Lucie de Bourg-la-Reine nous a laissé un message sur notre page Facebook. Elle a été embauchée il y a quelques mois comme assistante commerciale. Elle avait signalé lors de son entretien d'embauche qu'elle avait quelques soucis avec l'orthographe. Or, son DRH vient de la convoquer pour lui expliquer qu'elle pouvait être virée à cause de ce handicap. Alors, Jean-Marc Gandhi, vous êtes consultant et formateur en entreprise. Peut-on dire que le fait d'avoir des difficultés en orthographe est un handicap?
Alors, on pourrait répondre de manière très directe, oui. Maintenant, c'est un handicap qui est aujourd'hui très largement partagé. On le voit à différents niveaux, y compris chez de jeunes ingénieurs, par exemple. Mais c'est un véritable problème en entreprise, d'autant plus qu'on est beaucoup, de plus en plus sur de l'écrit. Alors, de l'écrit en interne, avec toutes les procédures de compte-rendu, de reporting, mais aussi vis-à-vis de l'extérieur. Et c'est vrai que si on est sur un métier commercial, ça peut poser un véritable problème. Maintenant, ce que ça peut être une cause de licenciement, cause réelle et sérieuse, ça peut se discuter, mais il n'empêche qu'effectivement, on peut avoir la pression de la part de son employeur et il va falloir réagir. Oui.
Alors, quel conseil vous pouvez lui donner à Lucie?
Alors, quel conseil? Déjà, de pas s'effrayer. Le fait de savoir qu'on n'est pas le seul dans le problème, ça peut enlever une charge d'angoisse, mais par contre, l'une des meilleures solutions peut être de passer, par exemple, par des ouvrages de vulgarisation de l'orthographe, dans des collections, comme par exemple Les Nuls, hein, l'orthographe pour les nuls, hein, sans que ce soit du tout insultant, c'est le titre de la collection. Des ouvrages bien faits, il y en a même à moins d'une dizaine d'euros dans cette collection-là. Il y en a également chez d'autres éditeurs, où c'est de l'orthographe quand même un petit peu revue, simplifiée, enfin revue dans l'enseignement, je dirais, pas l'enseignement peut-être plus sympa que l'enseignement scolaire suivi dans le passé. Et puis il peut y avoir même des petites applis sur smartphone. Aujourd'hui on en trouve une série, même des applis gratuites, des applis avec des exercices. Donc je pense qu'il y a des moyens. Et puis on peut passer éventuellement une certification qui atteste d'un niveau d'orthographe. C'est la certification Voltaire qui peut se passer un peu aujourd'hui dans toutes les villes de France. Et alors, qui coûte pas très cher.
Vous qui avez l'habitude, Jean-Marc, vous dites qu'effectivement, il faut surtout pas prendre ce problème à la légère et qu'il faut se prendre en main si on sent qu'on a des difficultés et ne pas se laisser un petit peu déborder par ça, parce que ça peut être rédhibitoire pour un employeur, ce qui est normal.
Oui, ça peut être rédhibitoire pour un employeur. Donc, parfois même avant l'embauche, au niveau de la candidature. Dans certains cas, bon, on a réussi à passer, on a fait relire son CV, le mot d'accompagnement, mais c'est pas la période d'essai que ça se révèle, ou éventuellement plus tard. Alors, je dirais qu'au-delà du blocage, moi, j'ai très nettement l'impression que le fait de relativement bien maîtriser l'orthographe, ou d'apprendre à le faire, hein, parce que c'est pas forcément inné, pourra constituer aussi un facteur de différenciation par rapport à d'autres personnes de l'entreprise. Donc, un plus. Donc il ne faut pas le voir uniquement comme une crainte, une peur, un blocage, mais ça peut être aussi un réel plus, comme le fait de pouvoir se débrouiller en anglais, hein, par exemple. Ça peut être un plus par rapport à des collègues qui ne parlent pas du tout l'anglais.
Alors effectivement, faire des fautes d'orthographe pour une personne ordinaire, c'est assez embêtant, mais pour une personne handicapée, ça peut être un peu plus fréquent, parce que ce sont quelquefois les personnes qui sont accueillies dans les ESAT et les EA sont en situation de handicap mental ou psychique et font un peu plus de fautes d'orthographe. Est-ce qu'il y a des remises à niveau dans certains établissements, en français par exemple, pour des adultes qui ne maîtriseraient pas bien l'orthographe, la grammaire?
Alors c'est vrai que les ESAT vont aussi avoir cette vocation, hein, de proposer ce qu'on appelle les activités de soutien. Voilà, ça peut être... c'est souvent lié en fait à une activité professionnelle qui a lieu à côté, hein, pour toujours faire le lien entre guillemets la théorie et la pratique. Donc c'est vraiment, voilà, c'est en fonction du métier de la personne. Et effectivement, il peut y avoir des ateliers de remise à niveau sur l'orthographe pour les personnes qui ont des difficultés.
Parce qu'on le sait, c'est pas l'idée, c'est pas que les personnes restent toute leur vie dans un ESAT ou une EA, c'est qu'ils essaient au maximum de retrouver ou de trouver un emploi dans le milieu ordinaire, donc maîtriser un peu mieux l'orthographe, maîtriser effectivement, comme le disait notre coach, avoir quelques notions d'anglais, ça peut être un plus si on veut rentrer, retrouver un milieu ordinaire.
Tout à fait, c'est vraiment aujourd'hui est devenu, j'ai envie de dire, presque indispensable pour certains métiers, notamment en milieu ordinaire, de pouvoir maîtriser l'orthographe. Et donc c'est vraiment toujours une très belle victoire quand une personne quitte l'ESAT pour pouvoir intégrer une entreprise ordinaire.
Même si ça fait peur un petit peu au début.
Effectivement, oui, ça peut faire peur, mais l'ESAT peut aussi avoir cette vocation d'accompagner dans les premiers temps la personne quand elle intègre l'entreprise, pour s'assurer que voilà, son intégration se passe bien, qu'elle n'a pas de problèmes particuliers, et faciliter un petit peu dans cette phase de transition son intégration.
Voilà, que ce ne soit pas un échec, parce que là, ça devient extrêmement compliqué pour la personne qui a quitté l'ESAT et qui se retrouve dans le milieu ordinaire, qui est en situation d'échec. Revenir après dans l'ESAT, c'est...
Oui, c'est absolument c'est, pas le but.
C'est, voilà, ça doit être, ça oui. doit être assez compliqué, assez oui. difficile. Oui. Vous restez bien avec nous. Dans la suite de l'émission, on aura Thierry Dimbourg, le directeur du CREA Aquitaine, qui a été l'organisateur du Salon de l'Excellence. Mais pour l'instant, on fait une pause en musique.
Vous écoutez La Vie des Entreprises jusqu'à midi sur Vivre FM.
Si vous nous rejoignez à l'instant, sachez que nous sommes toujours dans la vie des entreprises, dans l'émission mensuelle consacrée au secteur adapté et protégé, intitulée ESAT EA, c'est la vie. Nous sommes toujours en compagnie de Tristana Canaple, chef de projet solutions ESAT EA, et Céline Dassy, responsable des filières métiers au réseau GESAT. Et nous avons tout de suite par téléphone Thierry Dimbourg, le directeur du CREAI Aquitaine, qui est l'organisateur du Salon de l'Excellence qui s'est déroulé à Bordeaux, 25 et 26 mai. Monsieur Dimbourg, je dis que vous êtes là, mais vous êtes bien là ?
Oui, bonjour.
Bonjour, merci de nous avoir rejoints. Voilà, donc tout le monde vous entend, c'est super. Avant de parler du salon, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur le CREAI Aquitaine ?
Alors le CREAI, ça veut dire Centre Régional d'Études, d'Action et d'Information en faveur des personnes en situation de vulnérabilité.
Oui.
C'est un centre ressources régional, il y en a un par région. On existe depuis un peu plus de 50 ans et donc on est là pour soutenir l'ensemble des acteurs du secteur médico-social dans son ensemble et social également, notamment dans le champ de la protection de l'enfance et de l'exclusion, mais aussi beaucoup dans le champ du handicap, pour produire de l'information, produire des études, organiser des événements, mettre en place des actions de rencontre ou soutenir des innovations, voire produire des innovations intéressantes pour le secteur.
Alors vous avez donc organisé le Salon de l'Excellence, le premier Salon de l'Excellence qui a eu lieu au mois de mars à Bordeaux. Quels ont été les objectifs ?
Alors les objectifs, c'était déjà une opportunité, on va dire. C'est-à-dire que l'existence des Habilimpics, qui sont en gros les Jeux Olympiques des métiers pour les personnes en situation de handicap, qui se déroulaient pour la première fois en France et à Bordeaux.
Et a priori pour la dernière fois, parce que...
Et pour la dernière fois, enfin,
je ne sais pas si on sera encore là pour voir la prochaine fois.
Voilà. Exactement. Donc c'était vraiment un truc à pas rater. On savait qu'on y allait avoir une mise en lumière particulière du monde du handicap dans toutes ses dimensions pendant ces deux jours. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on a souhaité y insérer, on va dire, le travail protégé et le travail adapté dans sa dimension de mise en visibilité la plus grande de son excellence, voilà, c'est-à-dire l'excellence de ses prestations, l'excellence de sa formation, l'excellence de son impact sur les territoires et sur les réseaux qu'ils peuvent mettre en œuvre.
Alors il y avait plusieurs stands, il y avait plusieurs participants. C'était uniquement des stands tenus par des associations ou des structures françaises, ou est-ce que tous les pays étaient représentés ?
Alors non, là c'était d'une dimension française complètement nationale, mais on n'était pas dans même s'il y a des confrères espagnols qui ont tenu un stand parce qu'ils étaient présents dans le cadre des Habilimpics sur une autre occasion, mais donc il y a eu une sélection drastique d'exposants. On a reçu près d'une centaine de candidatures, on en a retenu une quarantaine parce qu'on n'avait pas non plus un espace extraordinaire. Et donc vraiment, chaque fois, on a retenu les éléments d'excellence pour mettre en valeur ce champ du travail protégé, du travail adapté.
Alors, c'était j'essaie de trouver le mot, mais un one-shot, ou est-ce que vous avez l'intention de refaire ce salon de l'excellence, même si les Habilimpics n'auront plus lieu en France ?
Exactement. Alors, on espère bien se nourrir de cette première expérience pour proposer quelque chose dès l'an prochain. Pour permettre à plus d'exposants d'être présents, donc avec une dimension un peu plus grande en termes d'exposition de l'excellence toujours, et avec l'idée de voir comment on va pouvoir mettre en place des partenariats pour proposer une deuxième, puis on espère une troisième, et faire en sorte que ça devienne un rendez-vous un peu annuel et incontournable de l'excellence des prestations dans le champ du travail adapté.
Ça se déroulera toujours à Bordeaux, ou vous envisagez de vous déplacer en France ?
Alors pour l'instant, on pense profiter d'une nouvelle opportunité un petit peu qui sera de moins grande dimension que les Habilimpics dès l'an prochain, dans la mesure où pendant les Habilimpics cette année, il n'y avait pas que les Habilimpics, il y avait également les sélections régionales des Olympiades des métiers. Et donc il a été annoncé à la fin des Habilimpics que l'an prochain, il y aura la sélection nationale des Olympiades des métiers. Et dans le cadre de cette sélection nationale, on va proposer, il est proposé de mettre en place des sélections régionales pour les futurs Abilimpics. Et c'est dans ce cadre-là qu'on souhaiterait proposer le salon dans une vision un peu plus grande, on va dire, oui. un peu plus importante, à l'occasion de ces deux manifestations qui se dérouleront à Bordeaux en mars 2019.
Toujours à Bordeaux quand même.
Toujours à Bordeaux, comme ça on continue à profiter de notre logistique et de se greffer sur un certain nombre d'événements qui mettent en valeur le champ du handicap, et ça permettra à la manifestation de grossir un petit peu, d'être un petit peu plus solide, pour pourquoi pas proposer dans 2 ans de s'expatrier et de trouver des partenaires dans d'autres régions.
Et ça permet, c'est super, ça permet aux Parisiens de découvrir votre belle région et de profiter un petit peu de la douceur.
Exactement.
Donc on est content.
Non, mais c'est une bonne. Enfin, je veux dire, Bordeaux est une bonne destination de.
Oui, c'est assez central
en plus.
Plus.
Exactement. Et c'est vrai qu'il y a aussi une forme de dynamisme local autour du handicap, y compris avec le lien avec les nouvelles technologies, qui est vraiment très intéressante à vivre sur Bordeaux en ce moment.
Donc vous êtes content, Monsieur Dimbourg, de ce bilan. C'est un bilan positif. Vous avez l'impression que ça.
Les retours qu'on a eus sont très positifs de la part des exposants. Alors bien sûr, ça a été fait un petit peu dans la précipitation parce qu'on a lancé la communication à la fin de 2015 pour une manifestation en mars 2016, c'était pas gagné. Donc il a fallu s'adapter à tout ça, mais pour autant, tout le monde a été content et je crois que j'ai demandé à l'ensemble des exposants de me faire un petit retour un peu plus précis, notamment sur les comptes ou les marchés qu'ils ont pu signer à cette occasion, parce que c'est aussi un indicateur important de la réussite de ce type de salon. On était dans un salon professionnel avant tout.
Ah, c'était un salon professionnel, parce que c'est effectivement, on n'en a quand même pas tellement entendu parler sur les médias traditionnels, ordinaires. Nous, on en a beaucoup parlé, évidemment, sur Vivre FM, mais dans les médias traditionnels, on n'en a pas beaucoup parlé. Vous avez l'impression quand même que le grand public, les particuliers sont venus voir à la fois les Abilimpics et visiter le salon.
Alors, c'était pas notre cible essentielle. Notre cible essentielle était, on savait qu'on allait avoir des représentants d'entreprises, des représentants de réseaux d'entreprises, surtout on a pu solliciter des acheteurs de grands groupes. On avait Airbus, la SNCF, la Société Générale, etc., avec qui on a mis en place des rendez-vous personnalisés avec les exposants du salon pour vraiment se faire connaître, se faire référencer auprès de ces grands groupes pour être des fournisseurs reconnus et de qualité pour ces entreprises. Donc c'était ça, notre première cible, elle était là, d'abord. La deuxième cible, c'était effectivement le monde du handicap, de manière globale, mais moi, par exemple, c'était notamment tous les gamins qui étaient en IME, IM Pro, tous ces jeunes handicapés, futurs salariés, pour leur montrer que...
Pour leur faire découvrir des métiers.
Exactement, était beaucoup plus loin que ce qu'ils pouvaient en penser, que c'était pas que retaper des palettes ou aller faire le jardin des mamies, qui avaient des entreprises adaptées, qui travaillaient pour Airbus, qui faisaient des cockpits d'avions, etc. Donc voilà, c'était leur montrer que l'excellence, elle est partout. Et elle est pour tout le monde.
Et qu'il y a plein de métiers possibles. C'est vrai que, effectivement, vous le dites, hein, c'est vraiment important de dire que c'est un secteur qui innove, qui se dépoussière, que les directeurs, les responsables de ces entreprises font énormément d'efforts. Et c'est important de le souligner. Merci beaucoup, M. Dimbourg, d'avoir été avec nous ce matin.
Ben, je vous en prie.
À bientôt.
Je vous souhaite J'espère. Une bonne suite pour votre émission.
Merci
bonne
beaucoup.
Journée.
Au revoir.
Au revoir.
Tristana, Céline, qu'est-ce que le GESAT en a tiré comme bilan de ce championnat et de ce salon à la fois?
Alors, c'est vrai que le GESAT avait un stand également sur le salon. Et donc ça a permis effectivement de montrer que le réseau GESAT était totalement inscrit dans la promotion et dans la valorisation du secteur du travail protégé et adapté. Et nous étions d'ailleurs aux côtés de notre partenaire l'UNEA, l'Union Nationale des Entreprises Adaptées, qui est notre homologue pour les entreprises adaptées. Voilà, donc nous avons également pu mettre en valeur tout ce que nous réalisons comme action pour promouvoir les savoir-faire, les métiers, les compétences des ESAT et des entreprises adaptées, et puis également pour aussi appuyer ces établissements, ces structures, ces entreprises dans leur développement économique, faciliter la mise en relation, que ce soit avec les entreprises, mais aussi entre eux, pour qu'ils puissent se connaître, pour qu'ils puissent coopérer, pourquoi pas collaborer pour répondre à des demandes de clients, tout simplement.
Et faire en sorte, effectivement, que les responsables des achats, les donneurs d'ordre, aient de plus en plus le réflexe de faire appel à une prestation qui vient d'un ESAT ou d'une EA pour une prestation particulière. Merci beaucoup, Tristana. Merci beaucoup, Céline, d'être venue nous voir ce matin. On se retrouve dans un mois pour un nouveau numéro de l'ESAT EA, c'est la vie. Pour l'instant, ce seront très vite les infos et puis la suite de vos programmes. Merci beaucoup, Dominique Lemaitre, d'avoir réalisé cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. À très vite.
Vivre FM.